Bonjour Annie, merci de nous accueillir chez toi. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter rapidement?
Oui, alors Annie, je suis agricultrice depuis... Alors j'ai 60 ans, donc jeune depuis le début de l'année. Je suis agricultrice depuis 2003 et j'ai été installée avec mon mari Olivier à 3 semaines de mes 40 ans. Voilà. Et j'ai réalisé par ce fait un grand rêve. J'étais bien contente d'avoir ce statut d'agricultrice et pas de rien ou juste je donne un coup de main sur la ferme. Ensuite, on a 4 enfants, 3 garçons et une fille, avec deux, l'aîné et le dernier, Alexandre et Guillaume, qui pourraient avoir un projet de reprise parce que tous les deux, on est vraiment à max 2 ans et demi de la retraite. Voilà. Et en type de production, donc on est installé en moyenne montagne, on fait un élevage de chèvres, on fait du fromage et on est en bio depuis 2009. Et 100% en vente directe. Voilà. Ça, c'était un projet. Le projet de base, c'était la chèvre et depuis 26 ans, puisqu'Olivier s'est installé en individuel en 96, en premier, et moi, je l'ai rejoint en 2003. On a toujours fait de la chèvre et du fromage, mais il n'y a jamais eu 2 années consécutives qui pouvaient se ressembler. Voilà.
Et il y a combien de chèvres ?
On a un troupeau d'une centaine de chèvres.
Très bien.
Voilà. Avec une grande gamme de fromage. Et quand même, sur notre carrière, on s'est installé dans un petit hameau au départ qui s'appelle Égieux, sur la commune de Roussillon. On avait repris une ferme. Et en fait, on avait des gros problèmes de voisinage. On était enclavés dans le hameau. Et en 2002, on a eu l'opportunité de pouvoir partir ailleurs. Et on a emménagé ici en 2004. Et c'est un bâtiment relais. Il y a eu une volonté politique d'installer des paysans sur ce secteur qui était complètement... où il n'y avait plus personne. Et on a eu un bâtiment relais, c'est-à-dire que la communauté de communes a trouvé des subventions et nous a fait une location-vente sur le bâtiment. On n'aurait jamais pu avoir cette structure-là s'il n'y avait pas eu ce montage financier de la part de politiques locaux. Voilà.
Ok, ouais, très bien. Et donc, en fait, Olivier, tu disais qu'il s'est installé en 96,
oui,
c'est ça?
Oui.
Et donc, toi, en 2003. Oui. Et pendant ce temps-là, toi, tu n'as pas été salarié sur la ferme?
Ah, du tout. Non, en fait, on est... Avant l'installation, alors ça c'était un vieux projet à moi, avant l'installation on travaillait tous les deux dans une grosse boîte qui s'appelait à l'époque Rhône-Mérieux, après ça a été Mérial, et c'est toujours, je suppose, je ne sais même plus comment il s'appelle aujourd'hui, le numéro 1 du vaccin animal, et on était sur une station de contrôle de vaccins. Il était mon responsable, moi j'étais technicienne animalière, et il a été licencié. Il a cherché du boulot pendant 3 mois. On avait 3 petits-enfants. Et il me dit, est-ce qu'on ne reprendrait pas ton projet? Et du coup, c'est lui qui s'est installé. Et moi, j'étais en congé parental. Et après, j'ai eu Guillaume. Enfin, on a décidé d'avoir un 4e enfant, c'était Guillaume. J'ai encore fait du congé parental. Donc, du coup, j'ai été 6 ans congé parental, en donnant un coup de main comme si j'étais installée sur la ferme. Et ensuite, j'ai été à Pôle emploi, au chômage, en leur disant que j'avais un projet d'installation. Ils m'ont pas fait suer et à un moment je me suis installée.
D'accord,
voilà. Très ouais. Mais j'étais très fière d'avoir été installée avec un statut. Et puis parce que quand on te dit sur les filles et les enfants là, qu'est-ce que vous faites? Et ben quand tu t'as pas de statut, ben non, tu peux pas dire que t'es agricultrice ou que tu travailles à la ferme ou que tu fais rien, parce qu'en fait tu fais pas vraiment rien. Mais tu dis quand même que tu fais rien parce que t'as pas de statut. Donc après, je revendiquais bien mon statut d'agricultrice installée. Et à 50-50, voilà.
Ouais, c'est important en effet.
Ouais.
Et tu es originaire de l'Ain ?
Pas du tout. Alors, on va commencer par Olivier, c'est beaucoup plus simple. Olivier, il est Ardennais. Et bon, il est arrivé dans l'Ain parce que moi, j'y travaillais. C'était une région où au départ, je disais, ben c'est pas mal, je poserais bien mes valises dans cette région. Et autrement, moi, je suis née à l'étranger, je suis née en Algérie. On est rentré en France avec mes parents, j'avais 11 ans. Donc après, tu ne sais pas trop d'où tu es vraiment. Moi, j'estime qu'on est de là où on fait sa vie. Et Voilà, donc j'ai été adoptée et j'ai adopté l'Ain comme terre d'accueil.
Et tu es hors cadre familial.
Ah oui, on s'est installé hors cadre familial
Ok.
quand on a repris la ferme. Et Olivier, il est quand même fils d'agriculteur des Ardennes. Lui, l'agriculture, il voulait pas en entendre parler. Il était technico-commercial en aliments du bétail. Il dit, moi, l'agriculture, paysan, pas vraiment, et encore moins des chèvres. Et quelques années après, miracle, il a repris mon projet.
Trop bien. Et quand tu étais en Algérie, ça t'intéressait déjà le monde paysan? Est-ce que tu avais une
Alors, nous,
notion
on
de quoi?
habitait à Alger avec mes parents. Alors, on allait à la montagne. Alors, ce qui est quand même vraiment très drôle, c'est que mes parents, ils louaient une petite maison dans l'Atlas, à 50 km d'Alger. Et pendant 2 ans, les souvenirs que j'ai de gamin, c'est que ben, c'était un hameau où il n'y avait personne. On était 2 maisons habitées pendant toute l'année, sauf l'été, mais l'été, nous, on n'y allait pas. Et on avait une liberté, mais vraiment totale. On venait manger, on venait songer avec mon frère et ma soeur si on était mouillés, machin. Et c'est là où on voyait un peu quelques vaches dans les prés au loin, mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Moi, je suis 100% de la ville. Et j'ai découvert le monde agricole par hasard en seconde, parce que je devais faire une seconde générale pour faire un brevet de technicienne de laboratoire. Et pour faire ce BTAO labo, il fallait faire une seconde générale agricole. Et du coup, je l'ai commencé cette seconde agricole. Et au bout de 2 mois, je suis rentrée chez mes parents. Je lui ai dit, mais moi, je ne veux pas du tout faire labo. C'est le monde agricole que j'ai envie de. C'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, après longtemps, longtemps, même à 19, 20 ans, mais j'étais vraiment torturée à chercher un projet où je puisse m'installer en tant que femme, quoi. Et la chèvre, c'était possible. Il fallait un petit truc, pas trop d'investissement. Et du coup, j'ai quand même réalisé ce que j'avais envie de faire.
Non, trop bien. Et tu t'identifies comme femme.
Oui. Mais oui, comme femme, mais oui. Alors, je suis pas très féminine, je supporte pas des robes. Voilà, mais oui, par mon tempérament, par ma sensibilité aussi, par mon travail, je m'identifie en tant que femme.
Donc, très bien. Et ton statut, donc c'est tu es co-exploitante,
Ah, je suis exploitante.
exploitante.
Ouais. Je pense pas que ce soit co, je pense que c'est exploitante tout court. Hein.
Ok.
Ouais.
Très bien.
Depuis 2003.
Ok, oui.
Voilà.
Et le terme que tu utilises pour te qualifier, est-ce que ça va être paysanne, agricultrice ou un autre?
Alors.
Peut être éleveuse aussi.
Oui, éleveuse fromagère. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps et je trouvais que ça allait. Que c'était pas mal. Ou chevrière fromagère. Parce qu'en fait, en fromage, c'est pas mal moi qui transforme, c'est moi. Je le transmets. Donc aujourd'hui, il y a Alexandre et Guillaume qui s'y mettent. Olivier fait pas de transformation, fait du lavage, il fait de la fromagerie, etc. Mais pas de transfo. Donc moi, c'est plutôt le fromage. C'est plutôt de transformer un produit, partir d'un produit brut, de le transformer et de vendre. Et c'était notre projet de départ. C'était pas de vendre. Et d'avoir une gamme diversifiée, faire un seul fromage, qu'un type de fromage avec tout notre litrage, ça ne nous aurait pas intéressé. Et puis livrer à une laiterie, ce n'était pas intéressant. On ne voulait pas être laitier, on voulait vraiment être fromager, transformé. Alors ça pouvait être très personnellement, c'est du fromage, ça aurait pu être de la charcute, ça aurait pu être de la viande, mais c'était le fait de transformer un produit alimentaire.
Ouais, donc en fait, il y a plusieurs métiers
Ah
dans.
ben dans ce métier-là, ouais.
Ouais.
T'es éleveur, t'es paysan, éleveur, transformateur et vendeur. Et vendeur, je pense que transformateur, fromager, on peut tous sortir des produits, plus ou moins bons, mais on peut tous sortir du produit. Éleveur, on peut être tous plus ou moins bons éleveurs, mais je trouve que la chose la plus délicate, c'est bien vendre. Il faut que tu ailles le vendre ton produit. On peut tous produire, hein, mais si on ne vend pas, ça ne sert à rien. Hein, ça sert à rien. Ça a pas de. Ben, c'est pas fini, parce que c'est quand même ton revenu. Voilà.
Et au-delà du revenu, toi, ton ambition aussi, c'était de nourrir les gens, enfin de prendre soin des animaux, de la terre, c'était.
Alors, au début, tout à fait au début, hein, c'était d'avoir un métier qui me permettait, parce que j'avais des parents qui étaient complètement absents. vraiment absent. Donc moi, je m'étais dit, si un jour j'ai des enfants, j'ai découvert ce métier-là en stage, si un jour j'ai des enfants, je veux être dispo. Donc même s'il faut qu'il, même si on n'est pas disponible, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre, on est au moins disponible, ils peuvent venir nous voir, venir nous parler. Nous, on peut arrêter ce qu'on est en train de faire pour aller les voir ou pour faire des choses ensemble, chose que mes parents ne faisaient pas du tout avec moi. L'objectif numéro un, c'était celui-là. Et après, il fallait que je trouve dans quelle, chercher longtemps, dans quelle production ça allait être possible, en plus en tant que femme. Parce que j'avais deux. Moi, je m'étais mis deux barrières, puis j'avais des obstacles. C'est que je n'étais pas du monde agricole, donc j'y connaissais, mais vraiment rien. Je connais un tout petit peu plus aujourd'hui, mais je ne suis pas non plus une. Voilà. Et puis, j'étais une femme. Et comment tu t'installes avec ces deux critères, quoi? C'est assez difficile. Moi, ça me paraissait même impossible. Et en fait, aujourd'hui, si, c'est possible.
Et tu te sens légitime.
Ah, bah oui,
Ouais.
tout à fait.
Mais
Oui.
ça n'a pas toujours été le cas.
Ça a toujours été légitime à partir du moment où on s'est. Depuis 1996, il n'y a pas de souci. Mais quand je cherchais, quand j'étais en études agricoles, parce que j'ai fait un bac agricole, donc général, j'osais pas dire que j'avais. Enfin, quand j'ai eu cette envie de m'installer, je me disais, mais c'est impossible. T'y connais rien, c'est pas conduire les tracteurs. Je m'étais mis personnellement beaucoup de barrières. Et il n'y avait pas toute l'ouverture qu'il y a aujourd'hui, quoi, hein, parce que ça, il y a 40 ans. 40, 45 ans. Il n'y avait pas toutes ces formations, toute cette information, tout ce monde des possibles. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de monde de possibles, beaucoup plus qu'avant.
Et tu as rencontré des embûches justement, que ce soit bah, au cours de ton parcours ou lors de l'installation, ou même aujourd'hui en fait.
Objectivement, non. Non. Enfin, je pense pas parce que parce que j'ai un caractère aussi assez trempé. Ben on me le dit, alors je pense que c'est vrai. Et non, j'ai pas rencontré d'embûches. En fait, en grande philosophie aussi, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. C'est rare, enfin, je crois que c'est pas souvent arrivé où je me suis obligée de faire des choses. Je peux avoir des choses qui sont contraignantes. Elles sont contraignantes, mais on m'a pas obligée de les faire. Je les ai faites moi. J'ai choisi tout ce qu'on a aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui, je pense l'avoir choisi. Puisque de toute ma carrière professionnelle, quand ça n'allait pas, quand ça collait plus, ben je m'en allais, je partais. Une ferme, c'est une autre responsabilité. Tu dis pas, ben ça me plaît plus, je m'en vais. Ça m'a toujours plu. Avec des hauts et des bas, hein. Des fois, tu as un coup de fatigue, tu as un coup de calgon. Mais j'ai jamais regretté ce à quoi on est arrivé aujourd'hui.
Et donc, aucun blocage d'un point de vue, je sais pas, financier, pour le
Non,
foncier.
non. Non, non, non. On a eu un blocage sur la ferme où on était avant. C'est que nous, le projet, c'était de toute façon, on produit. Les terrains, on s'en moquait un peu. On disait, on peut acheter du foin, c'est pas un souci, et faire pâturer. On n'avait pas de grandes idées idéologiques, hein. Des choses qui sont arrivées après. Et on était sur un hameau où il y avait de gros problèmes de parcellaires avec les propriétaires en place, quoi. Alors, ça devenait infernal. On est allé, je sais pas combien de fois, au tribunal. On avait 10, 14 hectares en 176 parcelles. C'était une jolie mosaïque. C'est invivable. On a dit, on s'en va, on peut plus vivre ici, quoi. Et ça a été une bonne décision parce qu'on avait un lieu agréable de vie, entre guillemets, mais on n'avait pas un outil de travail qui tenait la route. Aujourd'hui, on a un outil de travail qui tient la route.
Ok, ouais. Et le process, c'était quoi exactement? Ça concernait les terres?
Là où on était avant,
Ouais.
oui, c'était les terrains.
Ouais.
Le gros problème agricole, c'est les terrains. Nous, on est arrivés comme deux bleus en pensant les terrains, on s'en fout. Et on n'avait pas bien cadré les terrains, les baux ruraux, les limites. Il y avait des échanges qui s'étaient faits entre le paysan d'avant et puis un gars du hameau. On s'en foutait, on se dit, ben nous, on a repris les choses comme ça. Puis après, il y a de la jalousie de la part des voisins. Ils nous ont vraiment malmenés pendant 6-7 ans.
Ok, et ça se manifestait comment?
Eh ben, des agressions.
Physique?
Ouais, physique. Nous, les enfants, quand ils entendaient notamment aussi les moteurs de véhicules d'un voisin, ils se mettaient dans le fossé, parce que l'autre était barjot, ils pouvaient écraser. Je pense qu'il aurait pu écraser. Qu'est-ce qu'on nous a fait encore? Enfin, on était allé au tribunal, ils disaient qu'on leur volait, enfin, qu'on avait fait du foin chez eux, ou qu'on faisait pâturer chez eux, qu'on était chez eux, et nous, bien bleus, vous avez dit non, mais c'est rien pour une botte de foin. Puis en fait, au tribunal, tu t'en prenais pour une blinde, parce que toi, tu y allais la fleur au bout du fusil, et c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Et tribunal, on ne voulait plus y aller, quoi. Et depuis qu'on est là, on est tranquille, on n'a plus de problème de voisinage.
Et je peux te demander, c'était où avant?
C'était à Eygieux, sur la commune de
Ah
Roussillon, c'était à
oui, ok. Ouais.
26 km. Donc quand on a pris la décision de partir, c'est quelqu'un qui nous l'a fait prendre. On s'est dit, on ne va pas tout quitter. On avait déjà fait un réseau d'amis, de commercialisation, on aimait cette région. Donc on a recherché et on est tombé sur ce coin où il y avait 26. On a fait... Non, quand on a décidé de partir, on a fait une lettre à plusieurs comités de communes en disant, on a une activité agricole, touristique et on a 4 enfants en école primaire. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous? Et la communauté de communes du plateau d'Hauteville, à l'époque, nous a dit, ben, vous nous intéressez. À... il y avait 26 hectares, il me semble, qui se vendaient ici. Allez voir, et si ça vous va, moi j'étais jeune agricultrice, et ben, on fait préempter la SAFER. Ils ont fait préempter la SAFER, parce que ça nous intéressait. On a pu racheter 20 hectares. La communauté de communes en a gardé 6 et elle a monté. Elle a fait le montage du projet de la construction du bâtiment. Et la construction du bâtiment, après, ils nous ont fait une location-vente sur 12 ans. Et eux, ils ont eu des subventions, ils ont eu 80% de subventions sur leur investissement. Donc nous, on a payé un bâtiment 20% de son coût. Et ça n'a rien coûté à la Comcom, juste des frais de dossier, parce que nous, on payait les assurances, on était comme si on était chez nous, quoi, hein. Et il y avait une réelle, enfin on se dit et je me dis, quand il y a des réelles volontés politiques pour installer des agriculteurs sur un territoire, eh ben ça doit être possible, parce qu'ils y sont bien arrivés. Et en 6 mois, hein, ils ont monté le dossier. Nous, on a présenté notre projet en Comcom en juillet, non, en janvier 2000, on a pris la décision en 2000, 2003. Juillet 2004, on rentrait dans le bâtiment. C'était fait. Donc, comme quoi, il y a des possibles.
Oui.
Ben après, les gens nous disaient, mais vous avez été pistonnés, c'est pas possible. Ben non, on était toujours là au bon moment, sans le faire exprès. Alors, nous, on était bleus, hein. Nous, on avait du boulot par-dessus la tête, comme beaucoup, mais on avait 4 enfants, ma grand-mère qui vivait avec nous. On n'avait pas le temps d'aller faire du commérage, du papotage ou du copinage à droite-gauche. Hein. On était chez nous sur notre petite ferme de montagne aussi. Voilà.
Et aujourd'hui, vous êtes propriétaire du bâtiment.
Oui, alors du coup, aujourd'hui, la structure, donc c'est là, c'est pas nous, il se trouve que c'est nous deux, mais c'est le GAEC qui est propriétaire du bâtiment et et on a aussi des terrains en propriété, mais perso, et après, on a des locations aussi. Et c'est la ferme qui loue. C'est pas
D'accord.
nous. Comme ça, ben, il peut y avoir des changements d'associés, il peut y avoir une succession, une reprise. Normalement, au niveau des terrains, on pense que ça doit être s'assurer, quoi. On a fait ça pour pas que la suite ait des soucis tout de suite de terrain. Ce qu'on a quand même compris avec notre ancienne installation, que le terrain, en fait, les paysans, c'est, enfin, ou pour l'humain, le propriétaire terrien, la terre, c'est quelque chose. Hein.
Oui, Marie, ça c'est une longue histoire.
Voilà, dont on ne se doutait pas.
Oui. Et donc là, vous avez combien d'hectares?
Alors, on exploite 44 hectares. Je crois qu'à nous, on en a 17, 17, 20. Et aujourd'hui, il y a des propriétaires qui sont âgés ou des successions. Du coup, ils nous demandent si on ne veut pas racheter des terrains en location. Voilà, donc bah, on rachète quand on ne court pas après l'achat, mais si ça se propose, on dit oui. Et on a une petite anecdote, c'était assez rigolo. On a un ancien, quand on est arrivé, on est allé lui demander s'il voulait nous louer ses terrains, il nous a dit non. Et puis voilà, et il y a deux, trois, peut-être 3 ans aujourd'hui, 3, 4, ouais, 3 ans, en fin d'année, il vient et il dit, mais moi j'aimerais bien vous louer mes terrains, parce que c'est bien entretenu chez vous, vous faites du bon boulot. Simplement qu'il les a loués à quelqu'un d'autre et il est pas main et pieds liés avec son locataire. Il peut pas lâcher ses terrains, il peut pas redonner distribuer ses terrains, quoi. Et ben, il aurait fallu qu'il réfléchisse en amont.
Ouais. sûr. Et justement, vous avez des doutes, enfin, tu as des doutes du voisinage ou de
ici, non. L'entourage. Non, non, non. Non, parce que c'est pratiquement d'un seul tenant. Mmh. Et non, on est quand même, on n'a pas beaucoup, on est tout seul en tant que paysan. Après, tu as des personnes qui viennent du Val-Romède, d'un autre coin, qui viennent faire de la fauche, mais il n'y a pas de bestiaux, il n'y a pas. Le hameau est assez loin, donc même si on a des animaux qui. On fait quand même on fait attention. Mais des animaux qui s'échappent, normalement, il n'y a pas de dégâts. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut pas. Tes chèvres s'échappent, elles vont dans les jardins, c'est du dégât hein, quand même. Mmh. Ou les ânes, les chevaux. Bon, là, normalement, on est serein. On n'a jamais eu de. Ça fait 19 ans qu'on est là. On n'a jamais eu de problème de voisinage.
Mmh. Et à l'inverse, il y a de l'entraide.
Alors, de l'entraide. On est dans une cuma, mais il n'y a pas vraiment d'entraide parce qu'on est tout seul. Il n'y a pas d'autres paysans. Donc non, il n'y a pas d'entraide. On peut aller demander un service à un voisin éventuellement, mais on a un système assez simple où on essaye d'être le plus autonome possible. Voilà.
Ok. Et est-ce que toi, tu as des groupes, soit de parole, soit où tu peux te réunir avec d'autres femmes agricultrices?
Non. 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 Alors, on en a quand même quelques-unes avec qui on discute dans les points de vente collectifs. Mmh. Parce que mine de rien, la vente directe, c'est souvent les femmes. Mmh. La transfo et la vente. Et les permanences de points de vente, eh ben, on est entre nanas, souvent. Il y a eu de la solidarité, il y a eu aussi des groupes de parole, il y a eu avec certaines paysannes dans lesquelles tu te retrouves. Et elles se retrouvent aussi dans ton système. D'autres qui ne le sont pas, non, mais dans ce biais-là, oui. Il n'y a que dans ce biais-là où on peut discuter, enfin, où j'ai eu des échanges avec des femmes installées. Et aussi, quelques, mais c'est pas dans un rayon très proche, des amis qui sont installés. Et donc, du coup, tu discutes quand même de ta situation.
Ouais, ça, tu as le temps quand même de...
Alors, pas trop le temps, mais de temps en temps, c'est comme les amis, il faut de temps en temps les entretenir, quoi. Mmh. Donc, c'est pas effectivement tous les week-ends, mais en fait, ça gêne pas. Quand c'est vraiment des amis, tu peux même rester des années sans peut-être pas contacter. Quand tu te recontactes, c'est comme si tu t'étais quitté la veille. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais si, des femmes... Et je suis très sensible aux femmes installées. Ouais, je suis très très proche et je très admirative aussi.
Est-ce que certaines d'entre elles viennent te demander des conseils, de l'aide?
Non, mais j'en ai poussé quand même quelques-unes vraiment à s'installer et surtout à avoir un statut. Ouais, notamment une que j'ai en tête, mais il fallait absolument qu'elle ait un statut. Tu peux pas rester sur une ferme à bosser sans être reconnue.
Qu'elle travaillait avec leur compagnon.
Ouais, voilà. Ouais, travaillait avec leur compagnon, son statut. Ben, ouais, facile, hein.
Comme l'ancienne.
Et là, j'ai une ancienne. Alors, ça, c'était une copine de promo. Donc, ça, c'est vieux, que j'ai retrouvée par hasard et qui est installée dans l'Isère. Et elle aussi, elle a travaillé. Heureusement, elle a eu d'autres boulots. Et à un moment, elle était conjointe collaboratrice avec son mari. Et c'est... là, il faudrait que je la rappelle parce que c'était l'horreur. Il voulait investir dans rien, pas payer une masure en type de maison, pas préparer une maison pour la retraite, pas partir à la retraite. Elle dit non, mais moi, je ne vais pas pouvoir tenir, quoi. C'est clair. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue. Oui. Mais ça m'intéresse.
Mais tu me rediras aussi.
J'espère qu'elle a... C'est une femme de caractère aussi. Je pense qu'elle a pris son bâton de pèlerin et puis qu'elle... Déjà, je vais aller voir un avocat sur Bourg, comme ça, c'est pas vraiment ma région, pour avoir des infos, comment il faut que je fasse, etc. Voilà, comme on a aussi des échos de femmes, de couples, et où les femmes sont parties, parce que c'est des métiers qui sont durs, et en plus, tu bosses avec ton conjoint, quoi. Ça doit être encore plus... C'est un côté facile et un côté plus dur. Voilà. C'est un côté facile parce que tu le connais. Et un côté plus dur parce que du coup, tu es H24 ensemble.
Ouais. Et vous, avec Olivier, ça se passe bien? Enfin, vous arrivez à bien vous répartir?
Ah oui, au niveau du boulot, on est assez répartis. Alors là, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas fait non plus, mais on faisait aussi par exemple, des choses pas ensemble. Des vacances, mais même quand, avant d'être payé, on faisait déjà ça. Des vacances, des week-ends, des choses où tu n'es pas tous les deux. Et ce qui est bien, parce que du coup, quand tu te revois, quand tu te retrouves, ben, tu as des choses à te dire, parce que tu as quelque chose à partager, autrement, tu n'as rien à partager, tu es toujours ensemble.
Ouais.
Donc voilà.
Et au niveau des tâches domestiques.
Ah, ça c'est. Il est pas loin, hein? Je pense qu'on n'est pas tout à fait. C'est pas équitable. C'est pas équitable du tout, mais il en fait un peu. Un coup d'aspirateur, ça est fort, à vaisselle. Mais c'est pas équitable quand même. Mais peut-être que c'est pas équitable parce que la femme se le prend comme quelque chose qu'elle doit faire elle. Et elle se sent pas obligée, mais elle se sent mission de faire ça. Et qu'on ne pense pas à se dire, bah peut-être il faudrait former l'autre à prendre le relais, quoi.
Et vous en
Voilà.
discutez un peu quand même?
Oui, on en discute un peu, mais des fois ça ne va pas plus loin. Mais ça arrivait qu'on fasse des journées de ménage. Mais c'est dur aussi à mettre en place quand même, malgré tout. Parce qu'on n'a pas les. Ah oui, entre les hommes et les femmes, et peut-être. On n'a pas les mêmes niveaux d'exigence. Quand il y en a un qui voit que c'est sale, l'autre il voit pas du tout que c'est sale et ça ne le dérange pas, par exemple. Et c'est. C'est peut-être ça qui fait que ben, tu fais, parce que l'autre, ben, pour lui, il n'y a pas besoin d'être fait. Mais ça peut être un homme comme quelqu'un d'autre, hein. Les niveaux d'exigence ne sont pas les mêmes. Donc, alors quand ça me pèse, non, ça ne me pèse pas tant que ça, parce que je ne suis pas non plus une frappadingue du ménage. Et si vraiment, si vraiment ça ne va plus, parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, c'est déjà arrivé qu'on se dise on prend une journée ou une demi-journée, il y en a un qui fait le haut, l'autre qui fait le bas, et on se répartit les tâches. Mais je le fais aujourd'hui, je ne le faisais pas avant. Aujourd'hui, j'attends, 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 puis à un moment, je dis bah, tu fais ça, hein, parce qu'on ne peut pas. Par contre, un autre domaine où c'est pas très bien réparti, alors si, il fait une bricole, mais tu te sens que c'est quelque chose, je trouve, qui est lourd, c'est qu'est-ce qu'on mange? Le repas, c'est un truc, mais j'en peux plus du repas. Et les vacances, c'est quand je ne cuisine pas. Je ne veux pas me mettre au fourneau. Il est hors de question d'aller faire du camping, pour me retrouver dans un camping où tu vas encore faire de la cuisine sur ton réchaud. Hein. Non.
Je peux comprendre.
Pas de cuisine. Voilà. C'est clair, rien préparé et pas le rituel des repas aussi. Le matin, le midi, le soir, le rituel du repas, c'est lourd. Voilà.
Parce qu'il y a, vous avez encore combien d'enfants qui sont ici?
Alors, pour l'instant, il y en a encore un, parce qu'il est en transit. Là, Alexandre, il revient de vacances, et il a trouvé un appart sur Hauteville, donc on en a encore un, mais autrement, on est tous les deux. Après, c'est pareil. À un moment, il faut qu'ils partent, c'est normal. Et du coup, à deux, ben, tu peux te recaler autrement. Tu te sens plus libre. Enfin, je sais pas, c'est différent aussi de se retrouver à deux et en famille. Ouais, plus libre, moins de contraintes, moins d'obligations. Et puis, les quantités à cuisiner, ça n'a rien à voir.
Ça, je veux bien croire.
Hein.
Et justement, les enfants, tu as l'impression de plus t'en occuper aussi?
De plus m'en occuper en tant que paysanne
Enfin, même en tant que femme
que
plutôt.
femme, alors c'est très mitigé. Moi, je trouve qu'on est là, effectivement. Quand ils étaient petits, mais pas sur cette structure-là, sur la structure qu'on avait avant, qui était beaucoup plus petite, je crois qu'on s'est donné les moyens et le temps de s'occuper d'eux. Voilà. On accompagnait les sorties extrascolaires, on a pris des vacances, on partait une journée à droite ou à gauche, on faisait des choses. Je pense qu'on s'est occupé d'eux, on était vraiment là. Après, avec cette structure-là qui est plus importante, plus les points de vente où on est moins à la ferme, je pense qu'avoir eu. Enfin, s'ils étaient nés, si on les avait eus et si on s'était installé du premier coup sur cette structure, je suis pas, il aurait fallu qu'on change les donnes de travail. Vraiment, on n'aurait pas pu s'occuper d'eux. Mais à un moment, quand on est arrivé là, ils n'étaient pas bien vus, on s'en occupait quand même un peu moins. Hein, parce qu'on ne pouvait pas. On n'avait plus le temps. Plus le temps du tout.
Mais t'as pas vécu un congé maternité en tant que paysanne.
Ben si, parce qu'en enfin si, moi je travaillais comme
Ah bah oui,
si
c'est vrai.
je travaillais sur la ferme. Là où j'ai eu un congé parental sans. Un congé maternité, tu dis? En tant que paysanne, non. J'étais
Non.
en congé parental, donc j'ai
T'as
toujours eu
pas eu
des. J'ai toujours été en congé maternité par mon ancien employeur.
Oui, t'as pas eu le besoin, tu sais, de faire appel au service de remplacement.
Non, 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 ben non, parce que j'avais pas de statut
Oui.
d'installé. Par contre, malgré ça, quand Guillaume est né, et ça c'était pas mal, je pouvais avoir. Parce que chez nous, il y avait quatre enfants et j'avais ma grand-mère qui vivait avec nous, donc on était sept. Et quand il est né, à un moment, j'étais aussi hospitalisée, j'avais eu une bricole, on a pu faire appel à l'ADMR. Donc c'est l'aide à domicile en milieu rural. Et du coup, elle s'occupait de Guillaume ou des enfants. Et puis de leur faire à manger, des petites activités, une ou deux fois par semaine, c'est quand même super, hein. Moi, je partais parce que j'étais pas installée, hein. Et j'étais pas installée, non, non, mais j'y avais droit quand même.
Et c'était qui mettait ça en place? Enfin, c'était auprès de la MSA, c'était un service indépendant.
Ah, moi, je crois que c'est une asso indépendante. Je crois pas que ce soit la MSA. De vieux souvenirs. C'était super. Moi, je travaillais sur la ferme alors que j'avais pas de statut, mais Guillaume était là. T'es tout petit, tu reviens pour un coup, tu vas faire ta tournée, quelqu'un, tu reviens, quelqu'un fait le repas de midi, s'occuper de ton gamin, t'avais, c'est très confortable.
Alors j'ai une question, on va passer un peu du coq à l'âne, une question sur les outils et les machines agricoles aussi.
Les outils et les machines agricoles. Alors moi, je fais pas grand-chose. Ouais, alors on a une griffe à foin, donc ça, je conduis. Je peux conduire le tracteur, mais en fait, je ne suis pas du tout fan de tout ce qui est mécanique agricole. Je toujours dis, mais on n'a pas. On n'a pas ça. On en a eu une, mais elle est naze depuis longtemps. Je veux bien un tracteur avec une petite benne portée. Tu sais, les toutes petites bennes 3 points. Je dis, alors ça, peut-être. Oui. Mais comme il n'y a pas ça, moi, je trouve que ça ne m'intéresse pas de conduire les tracteurs. Et j'ai pas de. Comment dire? J'ai pas de frustration, hein, de frustration avec ça. Par contre, ce que j'ai appris à faire et que je ne savais pas faire, qu'on n'avait jamais fait chez moi non plus, chez moi de toute façon, c'était le bois. Donc faire du bois, là j'en fais moins, mais à une époque on en faisait un tout petit peu plus pour juste notre chauffage. J'avais eu même une tronçonneuse pour la fête des mères, tu vois, quand même, super. Mais j'aimais bien, c'était quelque chose. Voilà, c'était ma tronçonneuse et je pouvais aller couper du bois.
Et tu trouves que tout ce matériel agricole là, ou ces outils, sont adaptés aux femmes?
Alors, pour ceux que j'utilisais, bon, moi pour la griffe à foin, il n'y a pas de souci. Pour tronçonneuse, j'en avais une qui était même un peu petite pour moi. Parce que j'ai des grosses mains et il m'avait pris une petite tronçonneuse et elle était un peu difficile à manier. Après, le reste. Je trouve qu'en général, ce n'est pas que pour les femmes. Je trouve que le peu où je détache, où je l'aide à atteler des engins, je trouve que c'est pas si facile que ça à faire, quoi. Ça peut être lourd. Des fois, bah, s'ils te demandent ton aide, c'est que pour eux aussi, c'est pas simple. Donc, je pense que c'est pas si évident. Atteler, dételer, et puis. C'est surtout atteler et dételer le matériel. Après, le reste, j'en sais rien. Voilà. Moi, c'est assez simple, hein.
Une question aussi sur la tenue vestimentaire. Comment tu t'habilles pour aller,
À la
pour travailler?
ferme? Alors moi, je suis vraiment en clocharde. C'est vraiment. J'ai des habits. J'investis en rien. Des habits où je suis bien. Par exemple, j'ai une veste d'hiver. C'est la veste de mon grand-père. Je pense que c'est une veste qui a 50 ans. Mais je suis super bien dedans. Les pantalons, je suis en pantalon. Je suis pas très. Voilà, je pense qu'il y a. Notre fils aîné, qui à un moment, elle devait même avoir honte de nos deux tenues vestimentaires, parce qu'on était vraiment habillés n'importe comment. Mais en fait, ça ne me gêne pas. Ça ne me gênait pas. Je pouvais aller faire mes courses en ville, habillée comme ça. J'avais pas les bottes, hein. Et encore, que pour aller faire un plein d'essence, je peux mettre mes bottes, ça ne me gêne pas non plus. Voilà, mais après, pour sortir, bah, tu t'habilles autrement quand même, hein. Et justement, c'est aussi. Des moments, c'est contraignant, parce que tu as tes habits de ferme. Et tes habits de sortie, il suffit que tu aies plusieurs choses à faire en ville dans la journée, tu te changes 50 fois, je trouve ça vraiment. Enfin, je trouve ça gonflant, quoi.
Est-ce que tu préférais quand même te changer quand t'allais en ville?
Ouais, bah oui, suivant où tu vas. Suivant où tu vas, t'allais chercher les enfants à l'école, j'y allais pas, je me changeais. Parce que, en fait, c'est quand même aussi un acte de sortir à la ville, de sortir. Donc tu sors, tu te changes. Si c'est juste pour aller mettre en place dans un magasin et que je vais voir personne, je me change pas. Ça, je vais faire le plein en ville, je me change pas. Après, c'est pas des grandes tenues vestimentaires. Il y a juste un tout petit peu de nuance entre les deux types de tenues.
Et t'as jamais eu aucune réflexion?
Non. Non. Non, non, non.
Tant mieux.
Ouais, non, je pense pas. Hein. Après, des fois, c'est peut-être toi qui peux être mal, parce que des fois, c'est vraiment un peu crade, ou tu dis quand même, là, ça doit pas être top. Mais non, j'ai jamais été gênée avec ça.
Une question maintenant sur les élus. Voilà. Est-ce que tu penses que ce soit à l'échelle locale, régionale ou nationale, est-ce qu'ils sont aidants pour accompagner les femmes à s'installer?
En règle générale, je pense pas. Je pense pas parce que c'est pas un modèle classique de voir une femme qui s'installe. Donc je pense pas que ça soit plus. Il faut aller faire ses preuves, quoi. C'est pas quelque chose de naturel, donc du coup, ça peut les bloquer en face. Ou alors, il faudrait avoir des élus UES. Peut-être, parce que des fois, c'est même pas encore sûr, mais peut-être. Mais en tout cas, pour. Il faut. Alors, autant. Mais pour les hommes, c'est peut-être moins flagrant, mais pour une femme, quoi que tu fasses, tu as intérêt à avoir du. Tout, quoi que tu veuilles faire, agricole ou pas agricole, il faut avoir du caractère, quoi. Il faut que tu te démarques et il faut être droit dans tes bottes. Il ne faut pas avoir mauvais caractère, mais il faut avoir du caractère. Voilà.
Ouais.
C'est clair. Et nous, on a une fille qui a du caractère.
Mmh.
Pas du tout agricole. Non, non, pas du tout. Mais qui mène, tu vois, là, elle était dans. Elle avait un projet de yourte, de construction de yourte dans le Val-Romais. Elle commence à en parler à la mairesse. La mairesse lui dit ah non, non, pas de yourte sur la commune, sur cette commune, c'est pas du tout dans le style, il en est hors de question. Ben, elle n'a pas démordu, elle est quand même allée déposer son permis et elle a obtenu son permis de construire pour une yourte. Mais après, c'est elle qui a dit non, je ne me mets plus de. Mais elle est allée jusqu'au bout de son projet, avec beaucoup de détermination, de vocabulaire, de professionnalisme, et elle est allée au bout, elle l'a eu. Mais nous, on ne se fait pas beaucoup de soucis pour elle. Hein. Et ce n'est pas une question de taille, par exemple, parce qu'en plus, dans la famille, les garçons sont grands, elle, c'est la plus petite, elle en a fait même pas 1m60, tu vois, mais il y a un sacré caractère.
Elle rentre dedans.
Ouais. Elle rentre pas dedans, elle est professionnelle. Elle est professionnelle dans tout ce qu'elle fait. Et du coup, professionnelle, avec très agréable, souriante, voilà. Tout ce qu'il faut, qui charme, mais qu'il faut pacifier.
Et un peu la même question, mais cette fois-ci avec les chambres d'agriculture, en fait. Est-ce que tu entretiens des bons rapports? Est-ce qu'il y a une confiance?
Alors nous, on n'a pas de relation particulière avec la chambre, puisqu'on n'en a pas besoin, hein, éventuellement. Après, confiance... On a eu affaire à elle à un moment, il y a 2010, quand on arrivait ici, donc 2004. Ouais, c'est 2004. Ce projet-là, il était fait pour 3 ou 4 personnes. Et on cherchait des associés à l'époque. On en a cherché longtemps par le biais de la chambre, qu'on n'a jamais trouvé, de toute façon. Hein. Et pas toujours les derniers candidats, c'était pas très pro-pro. Puis après, on a laissé courir. Mais c'est les seules relations qu'on a eues avec eux. Que je puisse me souvenir, moi. Et le dernier en date, c'est par rapport au répertoire installation, on a eu un mail d'une personne qui nous dit je pense que c'est vous, j'ai vu une annonce d'une chèvrerie où ils cherchaient quelqu'un et en reprise dans le budget, mais la chambre, le répertoire installation me demande 70 euros rien que pour avoir l'adresse. Donc du coup, nous, on a fait notre petite enquête interne, on a trouvé qui c'était, on lui a donné l'adresse. On a dit, voilà.
Est-ce que vous recherchez quelqu'un?
Non, nous on ne recherche plus, c'est nos enfants qui doivent rechercher. Nous on est sur la transmission là. On a deux ans et demi de la porte de sortie.
Et comment ça se passe là? Vous êtes accompagné pour la transmission?
Oui, on s'est fait accompagner, on est accompagné par la DR.
Avec qui tout se passe bien?
Oui, oui, ça se passe bien et il s'est passé de belles choses. On a appris des choses. Eux ont aussi contacté la DR, ils ont eu des accompagnements qui les ont fait avancer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils recommencent, mais bon, ça, c'est de l'histoire interne à la famille et à la ferme. Mais c'est un accompagnement et humain, où l'humain a une grande importance, donc c'est bien. Et c'est de l'agriculture qui nous ressemble. Et on évolue, parce qu'en fait, tu t'installes, ou même quand tu nais, tu sais certaines choses, et après, ben, tu apprends. Et par le biais de la DR, on a appris plein de choses. Et on n'a pas fini d'apprendre.
Est-ce que tu es syndiqué dans un syndicat?
Oui, on est à la Confédération Paysanne. Normal. C'est le bras droit de la DR, donc on soutient aussi ce type de syndicat. Voilà, on s'y reconnaît. Voilà, on s'y reconnaît.
Et là, pour le coup, pareil.
Et puis, on adhère. Alors, on n'est pas très... Comment dire? On n'est pas automatiquement très militant. On peut être militant dans des messages que l'on va passer à des gens qui viennent à la ferme, des clients, les portes ouvertes, par manque de temps, aujourd'hui. Et puis, après, de distance, il y a des choses qui peuvent se passer à Bourg, mais mine de rien, Bourg, c'est une heure de voiture, une heure aller, une heure retour, le temps que tu passes sur place. Voilà. Il y a les distances sur nos territoires, je pense, hein, qui est une évidence.
Oui, non, totalement. Et donc, tu disais que, que ce soit la conf, la DR, tu partageais la même vision que de l'agriculture. Quelle est-elle?
Alors, une agriculture paysanne, respectueuse. Alors ça s'est arrivé, hein, avec le temps, parce qu'au début, on ne s'était jamais posé toutes ces questions. Respectueuse de l'environnement, des animaux et puis de l'homme, des choses à échelle humaine, c'est-à-dire que ça soit viable et vivable. Et des fois, on n'y arrive pas, parce qu'effectivement, on a beau dire que c'est viable, et des fois, ce n'est pas vivable dans les rythmes de travail ou dans l'organisation, mais ce n'est pas comme ça toute l'année. C'est peut-être des périodes comme pour beaucoup. Et puis, dans la transmission, dans la sensibilisation et dans la sensibilité... dans la vie des territoires, voilà. C'est ce qu'on partage. Ouais. Un grand respect de la nature et de l'animal et de l'homme. Mais pareil, le bien-être animal, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte avec des jeunes d'une école d'ingénieurs qui étaient venus faire une petite enquête. Et c'est à la fin de leur interview, on leur dit, mais au fait, on y est dedans, dans le bien-être animal, sans s'en être rendu compte. Comme l'agriculture paysanne, c'est quand tu lis des trucs, tu dis, mais en fait, c'est un peu ce qu'on fait. Mais on n'avait jamais réalisé qu'on pouvait être dedans. Parce que c'était pas dans nos questionnements du moment. Voilà, aujourd'hui, on est dedans. Et puis après, avoir des fermes qui soient transmissibles. C'est pas le tout de faire des usines à gaz que tu peux pas transmettre, qui coûtent trop cher, ou... Il faut qu'il y ait de la diversité, voilà. Il y a des mots qui arrivent après, qu'il y a de la diversité. Alors, au niveau du cheptel, au niveau des fromages, au niveau de la flore, au niveau... une mésange, là. Qui est juste... Et puis après, on apprend tout le temps. On a Alexandre l'aîné qui était très sensibilisé aux arbres. Et du coup, il y a 5, 6 ans, peut-être même plus, et nous a fait avoir une autre vision sur l'arbre. On ne coupe plus d'arbres. Pour faire notre bois, on ne coupe pas d'arbres. On coupe les arbres qui sont tombés, mais on ne va pas couper un arbre pour nous chauffer. Quand on voit des gens qui coupent, ça nous rend malade, quoi. L'arbre redevient quand même, on a planté des... Ou des fois, on me dit tous les jours, parce que l'arbre et la chèvre, c'est assez incompatible. Les haies et la chèvre, c'est complètement... Les chevaux et les ânes aussi. Donc, on s'est rajouté du boulot. On s'est rajouté du travail de tous les jours en ayant fait des plantations. Alors lui, il aurait peut-être envie encore d'en faire d'autres, mais des fois, nous, on pourra avoir envie de le faire, mais on n'a plus les moyens humains de pouvoir le faire, parce que ça rajoute du travail d'entretien, de clôture, de plantation, etc. Voilà.
Et au-delà des plantations de haies, enfin même dans les haies, c'est
Ouais.
des arbres fruitiers?
Pas que. Non, 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 non.
Des
C'est
transposteurs
des.
aussi?
Oui, c'est des arbres. Alors, c'est un petit peu tout type d'arbres du coin, quoi. On a des fruitiers aussi, hein. On a une haie de fruitiers, on a des fruitiers dans l'aire des poules. Mais après, il y a aussi qu'on est en altitude, les fruitiers, peut-être oui, dans quelques années ou là, mais ça demande. Alors, pareil, tu plantes des haies où ça te demande encore du boulot, ben, faut arroser. Aujourd'hui, il faut arroser. Au début des plantations, ben, on allait arroser, on était tous les deux, lui n'était pas là. Il avait mis ses haies en place et puis l'entretien était pour nous, quoi. Donc c'est encore du truc en plus. C'est chouette, mais pour cette biodiversité, il faut de l'humain. Et l'agriculture paysanne, c'est aussi de l'humain. C'est plein d'humains au lieu d'un seul. Et du coup, tu peux arriver à faire des choses comme ça. Il faut être plusieurs. Tout seul, même l'agriculture, tout seul, c'est beaucoup trop dur. Déjà, à plusieurs, c'est pas simple. Mais tout seul, à part la mécanisation, bof.
En effet.
C'est notre vision. C'est la mienne, mais elle reflète un petit peu ce qu'on pense au niveau du foyer. Voilà.
C'est super. Et est-ce que toi, tu es engagé dans une association en parallèle?
Alors, je l'étais plus, je le suis moins. Alors, il y a l'ADAR aussi, il y a toutes les associations de. Moi, je suis dans deux magasins de producteurs. Alors, effectivement, c'est des associations un petit peu particulières, mais c'est quand même des assos et où on défend certaines valeurs. Et puis, j'étais au centre social et culturel à Hauteville. Mais là, j'ai moins le temps d'y aller. Je me sens moins. Et je me sentirais aujourd'hui plus proche en ayant plus de temps à aller sur une asso comme l'ADAR que le centre social.
Et donc tout ce qui est association, enfin organisation politique, tu n'es dans aucune d'entre elles.
Organisation politique,
Ouais, enfin des partis ou enfin
ah
des.
non, 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 non. Non, mais après, non. On a des échos, on peut avoir des amis sur des organisations politiques ou quand ils organisent quelque chose, mais non, non, on ne peut pas y être. Je trouve que c'est hyper prenant. C'est pas, pour moi, c'est pas possible. Ou tu fais un peu les choses et tu essayes de les faire comme il faut, ou tu les fais pas, quoi. Ou tu les fais pas parce que si tu les fais, tu es frustré de pas, pour moi de ne pas les faire comme il faut. Donc je les fais pas. Là, des choses toutes bêtes. La réforme contre. Non, les manifs contre la réforme de la retraite. On en a fait quelques-unes parce qu'on était dispo. On n'avait pas les chèvres n'avaient pas mis bas, on pouvait y aller. Aujourd'hui, tu peux avoir des idées, mais pour nous, pour moi, il était impossible d'aller une manif à Bourg ou à Belley. C'était pas possible. Et autant aller à Bourg. Donc on a envoyé les jeunes, hein. Les jeunes y sont allés. On a des jeunes militants, bon, qui ont un peu reçu, mais. et qui retournent pas automatiquement. Mais là, parce que Guillaume est sur la ferme et qu'il n'a pas le temps non plus. Alexandre y est retourné quand même, le grand. Mais voilà, c'est. Et je tire mon chapeau à tous les militants. Voilà, je leur tire vraiment mon chapeau parce que c'est pas simple et c'est bien qu'ils y soient.
Ouais. Mais je ne sais pas si tu as vu, mais ce soir, il y a un comité local des soulèvements de la terre qui se crée
Ah oui,
à
non,
Bourg.
non. Ah ouais, non, non. Mais tu vois, par exemple, on pourrait être intéressé par ça. Mais c'est impossible. 1 heure pour aller à Bourg. Et les liens au niveau des gens, on n'a pas. Et après, tu peux avoir Internet, tu peux avoir d'autres. Oui, tu as Internet en moyen de lien. Mais ça demande encore du temps, quoi. Mais en fait, non, pas de temps. Moi, je peux pas. À un moment, je sature et je ne peux pas consacrer de temps à ça. Mais on a des échanges, on peut y penser, on a de grandes idées, hein, mais on n'est pas toujours très actif.
Non, mais c'est compliqué aussi.
Ouais.
Mais enfin, si ça t'intéresse, je sais qu'il y aura un compte rendu qui sera fait et
Ah
qu'on peut
ouais,
l'envoyer.
ok, ouais, ok,
Parce que le
ouais.
but en plus des soulèvements de la Terre, c'est quand même aussi de trouver des projets qui pourraient être à défendre, à protéger.
Et ben là, c'était une manif de Belley. Il y avait une dame avec qui j'ai discuté. Du coup, j'ai donné les coordonnées. Elle est dans la préservation de l'eau. Sur Belley, il y a une asso, etc. Et elle m'a demandé les coordonnées de la conf, parce qu'elle voudrait bien être au courant par rapport aux bassines.
Ouais.
Et il y a des bassines qui sont prévues,
ah
bah, là. Totalement. Donc du coup, et ben, c'est bien la société civile qui va s'en emparer, et des gens qui sont... Alors là, il y a beaucoup de retraités, hein, donc du coup, des gens qui sont militants, qui sont convaincus et qui ont du temps à y consacrer. Et je trouve ça super. Je suis vraiment contente de pouvoir faire ce lien. Mmh. Voilà, j'aime bien faire les liens.
Bah oui, non, mais c'est vraiment... Voilà. C'est en plus l'ambition des soulèvements de la Terre.
Oui, 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 de faire du lien. Mmh. Parce qu'il y a des choses, vraiment, mais même... des trucs qui se passent. Alors, les gens ne sont pas au courant. Et puis... il n'y a pas de sensibilisation. Tu vois, nous, sur Hauteville, il y a un truc de dingue qui se fait. Il y a une carrière. Il y a une carrière depuis longtemps. Mais là, elle a été rachetée par les carrières du Boulonnais, du Pas-de-Calais. Mais c'est monstrueux, cette carrière. Alors, le bruit... Et moi, ce qui m'ennuie... Alors, moi, j'adore les carrières. Je trouve que c'est des paysages de dingue. Mais là, c'est la poussière. Tu as de la poussière en permanence partout. Alors, tu as les micro-particules, déjà, parce que tu chauffes au bois... Et en plus, parce que l'air est plein de petites particules. Mais c'est un truc de... C'est monumental. Personne n'est au courant, personne ne dit rien. Ben, il faut continuer. Hein. Et s'il y avait peut-être eu en amont une sensibilisation et un petit groupe qui se dise... Mais après, tu te rends compte. Ben, c'est presque utopique. Parce que même quand tu as un groupe... que tu as des signatures, que tu y vas, que tu... Là, sur le plateau, il y a eu des canons à neige il y a 5-6 ans. Manifs, pétitions, articles dans le journal. Eh ben non, ça s'est fait quand même 1 million d'euros. L'année d'après, c'était un forage pour trouver de l'eau pure. Hein. 1 million d'euros, on y remet. Où sont les priorités? Et on l'a dénoncé, ça. Ça a été dénoncé. Là, on était militants et on était sur le terrain. Ça n'a pas empêché que les choses se fassent. Bien, voilà. Bon, après, on ne s'est pas mis devant les machines, mais il y a eu des choses qui ne se sont quand même pas faites aussi. C'est sur la recherche des forages d'hydrocarbures, là. Ben, ça ne s'est pas fait, mais il y avait des projets aussi dans le coin. Là, il y a eu des projets d'éoliennes, c'est tombé aussi à l'eau, parce qu'il y a des gens qui sont allés qui ne les voulaient pas. Et tu sens que ça bouge, quoi. Qu'il y a des gens, grâce à ça... Tu peux pas aboutir à tout, mais des fois, ça marche. Hein. C'était l'aéroport de Paris qui s'est pas fait non plus, aussi. Il y a eu pétition, ça doit être encore dans les petits tiroirs, mais c'est pas sorti.
Bah même Notre-Dame-des-Landes.
Voilà, Notre-Dame. Bah oui, ça c'est... Ouais.
Tout ça, c'est... Non, c'est des projets où, puisqu'il y a eu une lutte quand même qui était...
Ouais, il y a une lutte, mais les luttes sont violentes. Les luttes sont violentes, ça devrait pas être aussi violent pour écouter les gens, mais bon, c'est peut-être la nature de l'homme. Il faut des guerres pour que...
Voilà, c'est la nature du gouvernement, surtout.
Là, oui, c'est vrai, c'est du gouvernement. Et des tendances... Là, aujourd'hui, c'est sûr que c'est du gouvernement. Mmh. On est en économie de guerre, on est en situation de guerre. Contre qui, tu sais pas, contre... Mais si on sait contre qui, mais voilà. Non, eux, ils le savent en tout cas.
Ouais. Mais c'est assez impressionnant de faire la sourde oreille à ce niveau-là.
Ouais.
Aucune revendication. Mais bon.
Voilà.
Que fais-tu?
Donc du coup, on a, si on revient sur le métier de paysan, je trouve qu'on a un métier ou jeu, mais le nôtre, quoi, la vie qu'on mène depuis 96. Et qu'on a voulu, c'est une vie de contraintes, avec des contraintes, puisqu'on a des animaux, mais avec une extrême liberté d'action, si tu veux prendre un après-midi, de penser, d'organiser tes journées. On a quand même beaucoup, beaucoup de liberté par rapport à beaucoup d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment un point important.
Même s'il y a plus d'heures de travail.
Ouais, parce que c'est pas des heures qu'on... Enfin, déjà, tu travailles pour toi. Hein, on n'est pas des multinationales, mais tu travailles pour toi, tu choisis tes horaires. Après, tu pourrais faire le choix. Aujourd'hui, des collectifs qui se montent, ils ne bosseraient jamais comme nous. Je pense, parce qu'ils vont avoir d'autres ouvertures, d'autres envies que nous, on n'avait pas. C'est pas qu'on ne voulait pas, c'est qu'on ne les avait pas, ces envies-là. Donc, ça ne nous a jamais manqué, hein. Mais cette liberté de penser, d'agir, parce que quand tu es dans une boîte, si tu veux demander, je sais pas moi, une réparation d'un engin, tu fais un bond de, tu fais une demande, ça monte, ça monte, ça monte, après ça redescend en cascade, ça peut mettre 6 mois, à la fin pour rien. Quand tu bosses pour toi, demain tu prends une décision, tu potasses, et après-demain tu peux avoir mis en œuvre. Mis en œuvre ou pas, et avoir décidé. Et ça, c'est de la liberté. Voilà.
J'avais un peu d'autres questions qui
Ouais,
me sont
vas-y.
revenues comme ça. Et est-ce que quand il y a des personnes extérieures qui arrivent sur la ferme, ils s'adressent de la même manière à Olivier et à toi?
Ah oui, alors. Alors, ça dépend, mais alors en fait, moi, les commerciaux, etc., alors moi, qui ne s'adressent pas à moi, ça ne me dérange pas. Et quand ils s'adressent à moi, je les renvoie vers Olivier avec beaucoup de bonheur. Et des fois, je me plante parce que. Juste en anecdote, une année, il y a eu un gars qui venait vendre des outils. Ah, je dis non, non, mais là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, mais allez voir mon mari. Et en pensant qu'il allait dire la même chose, mais en fait, lui, il a acheté tout son truc d'outils. Il s'est bien fait rouler dans la farine, quoi. Et en fait, si j'étais restée que sur ma position à moi, le mec, il repartait. Mais je sais pas, d'instinct, j'ai dit, ben, allez voir mon mari en pensant qu'il penserait la même chose. Et en fait, lui, s'est bien fait rouler. On gagne pas tous les coups, hein. Donc après, qu'est-ce qui se. Au niveau de la vente, peut-être, moi j'ai plus de. Il y a plus de sensibilité au niveau de la vente. Lui vend aussi, on vend tous. Hein. Sur la ferme, on vend tous. Parce que c'est tous notre gagne-pain, la vente. Donc si tu n'y vas pas, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais autrement, non. Moi, ils iraient plus volontiers vers Olivier. Mais moi, ça ne me dérange pas, vraiment. Parce que je voyais, c'est hier, il y a un gars pour l'élagage d'un arbre. Quand je l'ai vu, ce mec, j'ai dit, mais moi, j'ai même pas envie de le voir, quoi. J'ai même pas envie de discuter avec lui. Chut, je me décharge bien. Et si, par exemple, ça va être une personne ou c'est qui vient pour quelque chose de bien précis et que ça m'intéresse, si, j'y vais. Et la discussion, elle est deux à trois, ou à trois, quoi. Voilà. Mais si ça ne m'intéresse pas et que je ne le sens pas, je ne le fais pas. Sans regret. Voilà. C'est. Et je ne me serais jamais installée toute seule aussi. Ça, c'est une chose certaine. Je ne me serais jamais sentie capable d'assumer ça. Et pareil, je tire mon chapeau à celles qui le font. Je ne sais même pas comment elles y arrivent. Je ne sais pas comment elles peuvent y arriver. Pour moi, c'est impossible. Ce n'est pas le fait de s'installer en couple, mais c'est de s'installer seule. Et j'en connais au moins une.
Il y a aussi une question sur est-ce que donc là tu t'approches donc de la transmission.
Ouais.
T'as déjà réfléchi à la suite, est-ce que tu veux continuer à t'impliquer ici? Est-ce que tu veux vraiment freiner et passer à autre chose?
Ah oui, moi je crois que je vais passer à autre chose. C'est ce que je pense. Est-ce que c'est ce que je vais faire? J'espère que c'est ce que je vais faire. Et dans l'idéal, c'est-à-dire que j'ai. Pour pouvoir, comment dire, laisser les repreneurs agir et qu'ils ne se sentent pas épiés, observés, etc., l'idéal, c'est de ne pas être là. Et qu'ils mènent leur petit bout de chemin, comme nous, on l'a mené aussi, parce qu'en fait, on se dit, mais on oublie que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a eu au début, hein. Et que nous, on a même eu des copains qui nous ont dit, mais vous faites la plus grosse connerie de votre vie, il faut pas acheter ça, c'est trop cher. Alors on a un couple d'amis, oui, mais vos enfants, comment vous allez faire pour les cours de musique, de gym, les activités? Vous êtes trop loin, etc. Et en fait, nos enfants, ils ont tout fait. On s'est donné les moyens qu'ils puissent tout faire. Voilà, ils ont fait des études, ils ont fait de la musique, ils ont fait plein de trucs. Même si on était dans une petite ferme perdue au bout du monde. Donc, moi, j'ai pas du tout envie de continuer à m'impliquer sur la ferme, du tout. Idéalement, rester dans le coin parce que c'est une région que je connais. Mais des fois, je suis mitigée. Je me dis justement, je la connais très, trop bien. et pas au niveau de la végétation et du territoire, au niveau des gens. Et des fois, tu te dis, ah non, c'est trop lamentable d'avoir ce type de personne en tant qu'élu, et ça pourrait te faire fuir ailleurs. Voilà. Mais le territoire est magnifique, moi, cette région, j'aime bien. Après, je crains un peu l'hiver. L'hiver est un peu froid. Mais quand après, tu ne bosses pas, tu peux bien aller passer tes hivers ailleurs.
Et vous souffrez du réchauffement climatique ici?
Oui, aussi. Ouais. Alors, le côté positif du réchauffement climatique, c'est qu'il n'y a quasiment plus de neige, qu'il fait moins froid. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, le côté négatif, c'est que c'est l'herbe, la pousse de l'herbe, c'est comment les arbres, les forêts, qui tu sens quand même que c'est pas d'une grande, c'est pas très vivace, hein. On a l'impression même que ça dépérit un peu. Voilà. Et là, il y a des mulots, des rats aux pieds, il y en avait pas avant, il y a plein. Ça s'arrête là, mais moi je trouve que c'est plutôt bien. Si demain on peut mettre des fruitiers sur le plateau d'Hauteville, super. Et faire du maraîchage, c'est pas mal. Mais avec de l'eau, et le problème, on n'a pas d'eau. Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de choses. On est vraiment.
Mais... Ça t'effraie pour tes enfants ?
Le réchauffement climatique ? Les miens, s'ils restent dans le coin, vis-à-vis d'eux, je suis assez confiante. Mais même de l'homme, je pense que l'homme, il s'adapte. Ce qui est un peu, qui fait un peu peur aujourd'hui, c'est des choses qui vont trop vite pour pouvoir s'adapter. Et puis par contre, il y a des régions du monde, ceux qui sont au bord de mer, c'est vrai que là, oui, là, ça fait peur. Là, sur notre territoire, ça ne fait pas peur.
Ouais.
Voilà. C'est très égoïste, mais là, ça fait, moi, ça ne me fait pas peur. Mais restons... Faut rester vigilant et toujours préserver, et puis peut-être faire des choses en amont, des réserves de flotte, des haies, essayer de travailler pour que ça soit mieux, quoi, par rapport à l'environnement. Mais ça m'effraie pas. De toute façon, ils sont là, et tu vois quand même. Et malgré tout, j'en parlais encore hier avec ma nièce, qui attend un bébé pour le mois d'août. Les enfants, même dans ce contexte de ouf. Tu dis comment les gens font encore des enfants? Alors tu comprends très bien qu'ils ne veuillent pas en faire. Là, je le comprends. Et quand il y en a un qui va pointer ou qui a déjà pointé son bout de nez, je trouve que c'est magique. Parce que c'est la vie quand même. C'est la vie, et peut-être que des gens qui ont des... Enfin, on l'a ressenti pour nous, et on l'a ressenti longtemps avec des trentenaires qui venaient d'avoir des enfants. Du coup, quand tu as des gamins, tu te sens responsable, et cette terre, tu as encore envie plus de la préserver et de la protéger que quand on n'en a pas. Parce que tu dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre demain, moi je suis partie, quoi. Mais quand tu dois la transmettre, tu y fais plus attention, j'en suis persuadée. Voilà. Donc, je pense, hein, mais on le voyait bien, on voit bien au niveau consommation, quand les gens pour une grande majorité, leur premier enfant ou leurs enfants, et ils commencent à faire attention à comment je vais le nourrir, cet enfant. Et du coup, comment je le nourris lui, comment je vais me nourrir moi. Et ils changent un petit peu leurs habitudes alimentaires. Et ça peut être effectivement, il peut y avoir un problème de revenus, mais pas que. Il y a des gens qui n'ont pas des gros revenus et qui font quand même attention et qui trouvent des alternatives, quoi, à une malbouffe. Voilà, c'est mon point de vue.
Non, mais oui,
non,
c'est très bien.
Et en contrepartie, c'est des choses aussi qu'on a appris, qu'on a évolué. Nous, nos enfants, ils n'ont pas du tout été élevés dans la bonne bouffe, hein, parce qu'on ne savait pas, et parce qu'on n'avait pas d'ouverture. Et si on s'installe. Alors, notre ouverture, elle est arrivée en s'installant paysan, on était un peu encore fermé, mais en côtoyant d'autres paysans qui, eux, faisaient des démarches, notamment de conversion bio, des petites fermes du Bugey, ces points de vente collectifs où on a connu d'autres paysans, on s'est reconnus, on a travaillé ensemble, on a défendu des mêmes valeurs. Et c'est le fait d'être ensemble qui nous a fait avancer individuellement.
Ouais.
Et ça, c'est super. Et en fait, c'est une force. Parce que nous, on avait un copain qui était paysan, qui était en bio, mais on se moquait même presque de lui, quoi. Parce qu'il était trop lourdingue. Il ne pouvait pas nous convaincre tellement qu'il était lourdingue. Et en fait, il avait... Voilà, lui, il avait ses convictions, et nous, ça arrivait un peu plus tard.
Ouais. Voilà. Et tu parlerais de conscience écologique, un peu, qui est venu.
Oui, qui est venu avec le temps.
Avec les enfants.
Avec les enfants, avec le temps et avec les échanges avec d'autres personnes. C'est les échanges, c'est les liens qui font que tu évolues. Si tu es tout seul dans ton coin et que tu as de relations avec personne, tu n'as aucune information, tu n'as aucune discussion, tu n'as aucun échange, tu ne peux pas avoir de réflexion. Donc du coup, tu n'évolues pas. C'est cette richesse de... Nous on se l'est dit, c'est vraiment cette richesse de points de vente collectifs où il a fallu qu'on se mette ensemble pour pouvoir vendre nos produits. Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on propose dans nos magasins? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Et qu'est-ce que tu fais chez toi? Parce que... Un magasin, ça ne se monte pas comme ça. Ça se monte à chaque fois. Il fallait 2 ans entre le départ du projet et l'ouverture du magasin. La connaissance, interconnaissance des fermes, des gens. Et puis du coup, tu échanges, tu apprends et tu n'es pas toujours d'accord. Hein. Mais quand même, des fois, tu dis qu'il n'avait pas tort. Ou s'il y a, on peut aussi faire changer certaines personnes de direction. Il y en a qui ne sont pas du tout convaincus ou qui utilisent des sels nitrités dans leur charcute. On peut leur dire quand même à un moment, les gars, vous ne pouvez pas essayer de faire autrement s'ils sont toujours dans le point de vente.
Ouais.
Et des fois, ça a marché quand même.
Ouais, on entend bien.
Et, voilà, et la force aussi, quand tu as un ou deux producteurs en agriculture bio, que les gens ils rentrent dans le magasin et qu'ils disent « Ah, mais c'est un magasin bio et toi, tu n'es pas en bio. » Donc là, t'es piqué à vif, quoi. Tu dis que non, c'est pas un magasin bio, c'est un magasin de producteurs. Puis de fil en aiguille, on dit, mais on va quand même y aller, hein, parce que c'est le consommateur qui nous accule, là. Et on est beaucoup allé en étant des points de vente où on est quasiment tous en bio. C'est le consommateur et c'est aussi des convictions, c'est des échanges, voilà, c'est un tout. C'est pas... parce que si t'es en bio, que t'as pas de consommateur en face, c'est pas la peine. T'as beau être convaincu, tu vas le faire à ton échelle... Mais il va te manquer quand même un maillon de la chaîne.
Oui.
Voilà.
Ok, non, mais j'avais très bien.
Voilà, je ne sais pas si c'est clair.
Si, mais... si, tout à fait. Et justement, ça me faisait penser à une question qui concerne un peu plus. Est-ce qu'on a parlé là tout à l'heure de réchauffement climatique et tu as dit bah, ceux qui vivent près des bords de mer vont être plus touchés. Et en fait, quand on regarde les chiffres, une catégorie de population qui va être le plus touchée, c'est les paysans et surtout les paysannes en fait. Par le dérèglement climatique.
Et pourquoi les paysannes?
À l'international, parce qu'en fait, c'est dans pas mal de pays, mais que ce soit...
Ah oui, mais oui, parce que c'est elles qui s'occupent de la terre.
Ouais, voilà.
Ah oui, oui.
Et donc,
mais
en
bien
fait,
sûr.
Ça fait partie vraiment de la catégorie de la population qui va être la plus touchée.
Ouais, touchée. Et elles font des cultures vivrières aussi.
Tout à fait,
donc,
ouais.
Du coup, ça impacte la famille et ça impacte les gens.
Totalement.
Ah,
et
oui.
Donc en fait, on va assister à une perte de savoir, que ça, enfin, tu vois, sur...
De transmission.
Oui.
Ouais, d'accord.
Et même, alors pour les animaux, je pense que c'est peut-être un peu moins vrai, quoique il doit y avoir...
Quoique, parce que souvent, c'est les femmes qui font la traite.
Totalement.
Hein, maintenant, il y a les hommes, oui, parce que tu as les machines à traire, parce que tu as des robots, etc. Mais souvent, c'est les femmes qui sont à la traite.
Totalement.
Ouais.
Et même au niveau en fait, de la diversité cultivée, que ce soit la souveraineté semencière.
Oui, oui.
Mais en fait, il va y avoir des conséquences énormes.
Ok.
Mais ça, je ne sais pas du tout voilà, si c'est quelque chose que tu
pas...
vu,
non. Pouvoir, ou je l'ai peut-être vu et oublié, ou juste survolé et pas imprimé. Là, c'est... Ah oui, ok. On va penser à ça. Parce qu'il n'y aura pas... Oui, effectivement. Mais ça touche quand même les mêmes types de pays.
Oui, tout à fait.
Ouais, les mêmes types de pays, mais ça peut toucher des pays qui ne seront pas au bord de mer, des zones qui ne seront pas en bord de mer, de montagnes, de pays où effectivement c'est les femmes qui sont beaucoup dans les champs.
Oui. Non, bah, en fait, tu as même que ce soit la FAO, là, l'organisation de l'ONU là, qui s'occupe de l'alimentation, et la Via Campesina qui ont fait quand même pas mal de travaux là-dessus.
Ok.
Mais pour poursuivre un peu sur la dimension...
Bah, du coup, tu vois, la retraite, par exemple, moi, ça, c'est des choses qui m'intéresseraient. Et d'y aller.
Dans les pays.
Dans les pays ou même dans ce type de structure, dans ce type de lutte, plutôt que d'aller faire réellement au fond de moi-même, parce que c'est ce où je suis le plus sensibilisée, c'est l'agriculture, que d'aller faire du centre social et culturel dans des villes à droite-gauche, tu vois. Je pense que je serais plus plus militante et plus intérieurement proche de structures défendant l'agriculture ou parlant d'agriculture.
Et sur des questions de souveraineté alimentaire.
Ouais, souveraineté. Je vais pas y arriver. Souveraineté alimentaire et des femmes.
Ouais.
C'est vrai que je suis très très sensible aux femmes, beaucoup plus qu'aux hommes. Bon, alors pourquoi faudrait... Allô, docteur, c'est grave, je sais pas, mais c'est sûr.
Est-ce que, parce que donc là, tu as quand même un engagement qui est écologique, un engagement, vu ce que tu viens de dire, qui peut être qualifié de féministe aussi.
Oui, un petit peu, oui.
Et donc, est-ce que tu te qualifierais d'éco-féministe? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle?
Je sais pas.
Ouais.
C'est pas... Je me suis jamais définie, donc je sais pas. Peut-être, mais tu vois, sur le... Il est où le patron? Fanny était venue me voir et moi j'avais dit non parce que je me disais mais qu'est-ce que j'ai à dire? Rien, je me sentais pas du tout dedans. Parce que pareil, ça c'est peut-être quelque chose, enfin c'est même sûr, c'est des choses que tu apprends avec le temps, tu discutes, tu te retrouves, c'est des prises de conscience, mais si t'as pas de prise de conscience, tu te reconnais pas. Moi je me suis pas reconnue parce que j'ai pas eu de prise de conscience, parce que peut-être que j'en avais pas besoin, donc j'étais pas dedans. Mais c'est vrai que quand tu lis le bouquin par rapport aux enfants, par rapport aux agendas, c'est... La femme, elle a quand même... C'est un sacré socle, là. Hein. Et je pense même que c'est elle qui fait tourner le monde. Puisque les cultures vivrières, et... c'est elles qui sont là. Celles qui font le commerce en Afrique, c'est les femmes sur les marchés. Pour faire rentrer l'argent dans les familles et pour pouvoir faire du commerce et nourrir la famille. Et les femmes font tourner quand même, ça j'en suis convaincue.
Oui.
Après, il peut y avoir des grandes places politiques, mais je connais moins cette sphère-là que la base.
Non, en plus c'est totalement vrai, et ça c'est pareil, on le voit. Moi j'ai fait des études d'histoire,
ouais.
Et en fait historiquement, c'est toujours les femmes qui se sont occupées en fait, de la production.
Oui, parce qu'il y a un souci de nourrissage, de faire vivre, de pouvoir continuer. Les femmes, elles faisaient le marché pour pouvoir faire du commerce, pour acheter du tissu, pour pouvoir faire des vêtements, pour pouvoir acheter autre chose pour faire à manger, pour nourrir la famille, parce qu'en fait, les familles étaient nombreuses. Aujourd'hui, tu peux passer là-dessus parce que tu peux être célibataire ou en couple sans enfant et du coup, c'est pas tout à fait les mêmes, la même chose.
Oui, totalement.
Le même souci.
Ouais. Et ça fait justement partie en fait, de ce qu'on appelle les ravages du capitalisme. Ça a été que en fait, il y a eu tout un volet qui a écarté les femmes de l'agriculture,
ouais.
Que ce soit en Europe ou à l'international, où en fait, elles ont été remplacées par des machines. Ou alors, leur travail avait toujours été invisibilisé, donc elles avaient été exclues en fait, de l'agriculture. Et ça a créé plein de problèmes en fait, de perte de savoir.
Aussi, oui. Ouais.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit encore. En fait,
on voit, oui.
Et j'avais peut-être une question là-dessus. Est-ce que toi, justement, tu as eu l'impression qu'on t'a quand même, dans des organismes de formation, enfin au cours de ton parcours, de ton installation, on t'a quand même transmis tout ce qu'il fallait d'un point de vue de savoir et que le fait d'être une femme n'a pas été un frein à ce qu'on te transmette
Alors de transmettre non, je pense que d'être une femme ça n'a pas été un frein toujours dans mes domaines de prédilection en mécanique sûrement, on m'a pas fait conduire d'engin, ça c'est sûr, parce que j'étais une femme, on m'a pas donné de tracteur parce que j'étais une femme. Mais après, sur l'acquisition des savoirs, il y a beaucoup de choses que tu apprends aussi, toi, personnellement, par expérience. Voilà. Je crois que l'expérience, on peut en parler maintenant, après 20 ans ou presque 30 ans, presque 30 ans d'exercice. Et puis d'aller en formation, parce qu'en formation on va te donner des outils, mais ces outils là ça sera bien à toi à les mettre en pratique pour pouvoir acquérir de l'expérience, parce que ce que ta voisine elle fait, tu vas pouvoir le refaire et ça sera jamais la même chose. C'est l'exemple des recettes de cuisine des grands-mères, quoi. Si tu cherches, tu ne trouves jamais. Tu peux tomber par hasard dessus Tu peux en avoir une ébauche, mais il faut pas être trop perfectionniste et vouloir retrouver la même chose. Donc l'expérience, c'est chacun qui va se la faire. Mais on te donne des outils. Et moi, en tant que femme, à part le machinisme agricole, le reste, je n'ai pas trouvé d'obstacle. Ouais. Voilà. Parce que je suis aussi allée chercher tout ce que je voulais, quoi. C'est... Il me semble, hein, pareil, hein, c'est mon ressenti aujourd'hui.
Bah non,
puis après, il y a peut-être des choses que je ne suis pas allée chercher parce que ça ne m'intéressait pas.
Ouais.
Et il y a tout un domaine, tout un volet aussi, par exemple, qui est pas, que je fais pas du tout aujourd'hui ou très peu, mais à un moment, j'avais mis complètement les freins. C'est tout ce qui était informatique, ordinateur. Parce que c'est tellement chronophage. Aujourd'hui, ça le sera encore plus parce que du coup, je mettrai beaucoup de temps pour acquérir les compétences. Mais c'était tellement chronophage que je voulais pas mettre dedans. J'avais autre chose à faire que de me mettre devant un écran, essayer d'apprendre ce genre de choses.
Mais ce qui fait que tout ce qui est administratif...
Moi, je ne le fais pas.
Okay.
Non.
C'est Olivier qui...
Ouais, c'est Olivier qui fait. Et il va essayer de transmettre quand même un peu ce qu'il fait. Mais parce qu'on s'était réparti les tâches et je ne pouvais pas le faire. Dans mon temps de travail à moi, je veux dire, à la limite, tu ne peux pas t'occuper des enfants et aller faire... ou aller faire une tournée de commercialisation de fromage, qu'à l'époque on faisait des tournées, c'est moi qui la faisais. On pouvait la faire tous les deux, mais c'était essentiellement moi, et puis faire de l'administratif. Tu peux pas être. T'es pas divisible. Donc du coup, on était partagés. Et c'est allé dans ce sens-là. Lui, il aimait bien l'informatique, il est allé dedans. Ça me dérange pas. Voilà. Si des fois je dis quand même, on fait. J'aimerais bien savoir comment on va sur les comptes. Et je sais. Oh là, au grand truc, je sais scanner, je sais envoyer un document. Oh là là, parfait. Mais il faut faire aussi les choses, il faut les répéter pour savoir les faire. Si tu fais un truc une seule fois, tu ne sais pas les faire. Quand tu dois les refaire tous les 6 mois, c'est pas possible. Il faut à chaque fois que tu reprennes, quoi. À notre niveau, hein, on a des cellules qui commencent à vieillir.
Mais écoute, merci beaucoup. Parce que moi, j'ai fini, mais est-ce que tu vois quelque chose que tu aurais envie de rajouter ?
Attends, il faut que je réfléchisse là. Hein. Par rapport à. Oui, alors ça, c'est des petites phrases comme ça. Hein. Quand on s'est installé, quand les gens ont des souvenirs, alors, par exemple, avec les enfants au milieu, notre organisation, il y en a même qui venaient nous voir parce que c'est tellement impressionnant. Cette famille, ces deux jeunes avec leurs 4 gamins, leur grand-mère, comment ils font, leur journée et tout. Et nous, on était toujours radieux. Et quand les gens nous disaient, on me disait, c'est dur ce que vous faites, je disais, non, c'est pas dur, là. Facile. Et aujourd'hui, à 60 ans, si les gens me reposent la même question, je dis, oui, c'est un métier dur, en fin de compte. C'est aussi un métier dur, tel climat. C'est pas vraiment un métier, en fait, c'est aussi une vie. Pour ma génération, et puis peut-être d'autres. C'est pas que un métier, c'est aussi une vie. Où c'est dur le climat ici, le froid, ça te sèche. Hein, quand tu vas dehors, moi je préfère aller au soleil l'hiver hein, que de me faire ces températures négatives. Tu as du travail de force, tu as des plages horaires qui sont importantes. Donc oui, c'est un métier difficile. Mais c'est un métier où tu t'épanouis. Et il faut vraiment que ce soit un choix, que ce ne soit pas quelque chose de contraint. Et on a eu la chance de que ce soit un choix. Hein, parce que Olivier, fils de paysan, alors son père non, parce que son père était très très ouvert, mais sa mère vraiment, on n'a pas compris qu'il puisse s'installer quoi. Non, t'auras pas de vacances, t'auras pas de week-end, pas de jours fériés, pas de salaire, tu vas pas en vivre. Et en fin de compte, tout ça, nous on y est arrivé. Voilà, c'est, on peut aussi arriver à plein de choses quand on a la volonté de le faire. Des vacances, ça peut se faire, des longues plages où tu ne serais pas sur ta ferme, des congés sabbatiques de quelques mois. À mon avis, c'est possible, mais c'est une grande question d'organisation. Et effectivement, peut-être que les femmes sont plus fortes que les hommes. Ou sont trop... c'est elles qui tiennent souvent les agendas. Hein. Voilà. Voilà, je pense que je... Mais c'est un beau métier. Et aujourd'hui, je prends conscience, après les 26 ans d'activité, je peux commencer à prendre conscience que je nourris les gens. Je n'en avais pas du tout conscience au début. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était pas une question de nourriture. Et aujourd'hui, effectivement. Alors, nourriture, alors on pourrait penser que le fromage, mais aujourd'hui, on sensibilise les gens, et notamment cette année, c'est que pour avoir du fromage, tu as automatiquement de la viande, tu as aussi des petits. Ces petits, c'est du veau, c'est du cabri, de l'agneau. Eh ben, c'est aussi des viandes qu'il faut commercialiser, qui sont nobles, qu'il faut manger pour pouvoir bénéficier des laitages. Voilà, et c'est toute une boucle, et on communique là-dessus aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Encore hier à la ferme, ils me disent, moi ce qui me gêne quand même, c'est de tuer les animaux. Je dis, non mais vous mangez la viande? Elle me dit oui. Je dis, il faut bien quand même... Il y a un cycle de la vie, et du coup, et avoir que les gens prennent conscience du cycle de la vie. Effectivement, c'est la vie, c'est l'élevage, c'est la mort. Mais ce n'est pas du plaisir de donner la mort, c'est simplement un rythme, une obligation. Enfin, ce n'est pas une obligation, mais c'est comme ça que ça se fait, le cycle de la vie. Nous, on est, on grandit, et puis on finit aussi, quoi. On finit pas dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons, mais c'est le même cycle. Et je pense que des fois, l'homme, et souvent le citadin quand même, il a oublié ça. Il l'oublie. Et il est idéologiste sur certaines choses, mais quand même, il faut remettre les choses en place. Et on a aussi un rôle dans nos métiers d'accueil, de communication, de ce que l'on est. Moi, c'est ce que j'adore aussi. C'est transmettre des informations de base à des gens qui sont souvent, qui pourraient être très, très élevés dans l'échelle sociale, mais la base, ils ne connaissent pas, quoi. Et c'est vraiment, c'est un jour en stage, c'était l'accueil en région parisienne, dans l'Indre, de retraités, avocats, toute la crème de Paris. Et ils étaient en admiration devant un chien qui était galeux, à moitié mourant, devant tout. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a des choses qu'il faut leur transmettre, parce que ça avait rien à voir, quoi. Il y avait pas d'admiration à avoir devant ce genre de truc. Voilà, de transmettre ça. Quand on dit à des gens, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un animal, alors du coup, chez nous, une chèvre ait du lait, quand on vous dit, faut qu'elle mange de l'herbe, je dis, ouais, il n'y en a pas que quand même, hein. Et ça peut être des femmes aussi qui répondent ça, alors que pour qu'un animal il développe une lactation, il faut qu'il ait un mammifère, quoi. Mais c'est... Donc du coup, c'est ce petit coin, je me dis, c'est tellement simple, j'ai pas besoin d'avoir fait de grandes études, mais c'est la base, et j'adore transmettre la base.
Ouais, surtout que c'est hyper important, enfin, je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une déconnexion du public.
Oui, entre autres,
mais
quoi.
Surtout des élites. Et là, c'est peut-être parce que les élites peuvent être du monde rural, mais il y a une déconnexion aujourd'hui.
Et les élites peuvent décider pour le monde rural,
c'est ça, parce que c'est vrai.
Sans avoir mis les pieds dans une ferme. Donc là, c'est assez. Je crois que je sais plus si c'est les vétos ou les écoles d'ingénieurs agro, mais je crois que c'est les écoles d'ingénieurs agro qui aujourd'hui sont obligées, au moins dans un de leurs stages de cursus, d'aller dans une ferme. Les mecs, demain, ils vont décider. Et au moins qu'ils voient ce que c'est, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est important. Parce que, c'est la base de la vie, hein, quand même, cette culture, cette agriculture, ces territoires. Et voilà, c'est tout. Je vais arrêter parce qu'après ça va être trop émouvant.
Non, mais c'est très bien.
Mais c'est en discutant aussi que tu te rends compte de ça. Parce que si tu discutes pas, tu t'échanges pas, t'en parles pas de tout ça. Et t'as pas de prise de conscience. Donc, dans quelque domaine que ce soit, si t'as pas d'échange, c'est très pauvre. Nous, quand les clients. Pareil, c'était pas ici, c'était même à Aigieux où on était, quand les gens nous remerciaient de l'accueil et tout ça. Je disais, non, mais c'est pas que nous, hein. C'est à deux entrées. Parce que si vous n'êtes pas là, nous, on ne peut pas vivre. Et si nous, on n'est pas là, on ne peut pas vous nourrir, quoi. C'est dans les deux sens. Le merci, il est des deux côtés. Quelqu'un qui fait la démarche de venir acheter tes produits, moi, je lui dis merci. Et lui qui te dise merci pour ce que tu fais, waouh. C'est...
Oui.
C'est très valorisant, voilà. Et c'est ces échanges-là, les gens qui font pas de... Tu vois, là, on va faire l'Inde, ferme en ferme. Donc, de ferme en ferme, tu connais cet événement
Dans l'Inde,
Oui, oui. Dans l'Ain, c'est la 16e année. Nous, on le fait depuis 16 ans. Et on adore cet événement-là. Alors, il y a un peu de stress. Je crois que cette année, on est un peu flottant. Je ne sais pas ce qu'on va raconter. Mais quand on y est, ben, on peut faire passer tout ce qu'on veut. Et on a des gens qui viennent, ben, des fois, qui en prennent plein les mérites. Ou pas, ou qui apprennent des choses et qui te disent merci en partant de ce qu'ils ont appris. Parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Voilà, nous, on a... Et moi, peut-être. Alors, du coup, ça a aussi des côtés où tu te prends des coups de bâton. Il n'y a pas de langue de bois. Moi, je crois que la langue de bois, ça ne sert à rien. Et pourtant, on vit beaucoup avec des, ouais, des langues de bois.
C'est vrai. Il y a combien de personnes
Qui bossent, là non, non, ah non, qui viennent à l'Ain de Ferme en Ferme, ouais, par exemple. On ne cherche pas le nombre de personnes. Alors, on en a quand même beaucoup. Il me semble qu'on a, l'année dernière, on a eu jusqu'à 1700 ouais, personnes, le plus. Ouais. On n'en veut pas. Mm. On n'en veut pas parce que tu ne peux pas t'occuper d'eux.
Mm. Mais ça, c'est pas trop dur à gérer cet afflux sur un week-end d'autant de gens.
Surtout que tu ne sais pas ce qu'il va y avoir. Il peut y avoir 500 personnes, comme 800, comme 1700. C'était un week-end, il faisait beau. Le premier week-end où il faisait beau depuis longtemps, ils sont tous sortis. C'est pas... Nous, à la limite, on ne court pas après. Mm. Alors si tu es assez fier de ton chiffre, entre guillemets, mais tu n'as pas fait un accueil digne de ce nom. Mmh. Parce qu'un accueil digne de ce nom, c'est que tu t'occupes des gens, que tu discutes avec eux. Mais on fait toujours de l'accueil. Nous, à 4 heures, on fait la traite. Il y a toujours des gens qui viennent. Alors, des fois, quand il y a trop de monde, bon. Mais tu peux faire passer des messages. Et quel que soit le type de public, hier, on avait une maison de retraite, plus des particuliers. Demain, on a un centre social. Mais là, c'est la surprise, le centre social. Parce qu'ils avaient dit, est-ce qu'on peut venir? Oui, famille, enfants. Ils nous annoncent qu'ils sont 40. 40, on se dit, mais comment on va gérer ça? Ça va pas durer très longtemps, ça va durer 2 heures, et puis après on va dire, ben c'est bon. Puis on va faire, on va être nous, et on espère être à la hauteur, mais on fait pas de la floriture, quoi. Nous, on fait pas de floriture. L'Ain de Ferme en Ferme, ils disent, vous faites des repas? Non, non, pas de repas. On a essayé des goûters, ça marche pas. Des repas, c'est pas la peine. On va pas s'en rajouter. Nous, ce qu'on veut, c'est discuter avec les gens, c'est pas les servir. C'est ça. Et on a l'aîné, donc Alexandre. L'autre fois, j'ai dit, mais c'est lui, il veut s'installer, mais c'est un peu. Bon, c'est pas simple pour venir se mettre sur un truc où il y en a un qui est déjà là depuis 5 ans ou 10 ans, qui mate la place, mais qui est plus petit que lui. Quoi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait vibrer? Il dit, bah, c'est les échanges avec les gens. C'est même pas. Et lui, il adore les arbres, mais c'est pas la chèvre. La chèvre, ça sera. Ben, ça sera un travail, comme beaucoup de collectifs aujourd'hui. Enfin, moi, j'en connais qu'un, je dis beaucoup. J'en connais qu'un, où effectivement, pour eux, ils vont au boulot. C'est pas une passion. Mmh. C'est un boulot avec plein d'autres passions à côté. Et ils essayent de... Et ça marche, hein. Et ils font jouer le tout, quoi. Donc, je crois que c'était vraiment une... Alors, moi, je sais pas si c'était une passion. C'était une grosse envie de faire ce type de boulot pour la raison du départ. Mais je pense que c'est aussi pour cette liberté. Inconsciente, mais vraie, réelle. Réelle. L'autre coup, je disais ça, ça m'est arrivé, ben, lundi. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, les enfants devaient partir au lac d'Annecy ou une journée, j'étais avec eux et tout. Et ben, fallait que je me lève à 2h du matin pour faire mon travail de fromagerie. Il n'y a personne qui allait me le faire dans la journée qui suivait. Et ben, je l'ai fait. Et puis, je ne le regrette pas. Et je suis contente de l'avoir fait. Là, il disait, non, non, mais nous, on va passer à 2h du matin. Oui, mais vous, vous serez peut-être 5 sur la ferme. Et à 5, t'as pas besoin de te lever à 2h du matin. C'en a un autre qui va faire ton boulot. Mais là, il était 2. Donc, 2, t'es pas obligé de faire... De faire ça, quoi. Et puis, des gens qui nous disaient... Ah, on a été aussi des exemples pour une stagiaire qu'on a eu longtemps. On a une apprentie, 2 ans, on l'a eu. Et chaque fois, on entendait, ouais, paysans, prennent pas de... Elle dit, non, non, mais moi, j'ai des... Mes apprentissages, je prends des vacances, hein. Tes week-ends, t'as pas tous tes week-ends, mais ceux que tu prends, tu t'en souviens, parce que ils sont riches. T'es parti, tes vacances, tu t'en souviens aussi. C'est pas quelque chose de banal. Le week-end, c'est pas quelque chose de banal. Les vacances non plus. Donc du coup, c'est aussi intéressant. Mais c'est aussi difficile parce que quand tu as des gens malades ou des événements un peu loin et que c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, t'as aussi un peu frustré de pas être aussi disponible que ce que tu voudrais l'être, mais on n'est pas à la retraite. Donc, voilà. Bon, allez, c'est bon.
Non, bah, merci beaucoup.
Merci à toi, parce que j'appréhendais du bon, je ne sais pas ce que je vais pouvoir raconter.